Bienvenue sur
Tokyo Yume.
Tokyo Yume sur Couleur FM 97.1, la seule émission qui traite du manga, de la pop asiatique, des jeux vidéo, des dramas, des yaoi, des hentai, du cinéma, de la cuisine, enfin bref, de plein de trucs super cool qui vont vous amuser. Alors soit vous les connaissez, et en l'occurrence, et bah, vous allez voir que vous avez affaire à des connaisseurs pure souche, ou alors au contraire, vous ne connaissez pas du tout, et là, et bah, vous allez apprendre, ou du moins, vous allez, ça se trouve, vous allez à comprendre, mais rien que pour l'ambiance, ça vaut le coup de rester. Vous savez, c'est vendredi soir, vous avez envie de passer à autre chose, certains sont allés rechercher leur diplôme et autres. Ils ont envie voilà, de changer de cap totalement. Et ben voilà, Tokyo Yume est là pour vous servir. Et donc du coup, pour ce soir, comme d'habitude, on a réuni la meilleure des équipes. Enfin, après ça, on vous laisse juger. Hein. Mais en tout cas, je pense que je peux leur faire un minimum confiance. On commence tout de suite la présentation de la team avec notre ami Kurodo. Applaudissements. Kurodo qui a laissé la petite barbe là.
Ouais, ouais, c'est vrai.
C'est le bouc.
Mmh. Ouais, je la rase
le bouc. Kurodo, le bouc. C'est dégueulasse. C'est très moche.
Ah, c'est ignoble.
Alors, donc, Kurodo, ce soir, toi, tu vas t'occuper de la partie geek. Ok. Tu vas nous parler d'un film que t'es allé voir au cinéma.
Ouais, c'est tout récent, là, ça vient de sortir.
D'accord, la question, c'est comment tu as fait pour le payer?
En fait, eh bien, véridique, on me l'a offert. Hein.
Oh.
Tiens, ça m'étonne pas du tout.
C'est qui te l'a offert?
Ça, j'ai pas le droit de dire.
Personne l'a offert en fait, c'est ça. Bon, alors donc du coup ce soir tu vas nous parler de quoi?
Ben de Kingsman, le cercle d'or.
Ok, d'accord. Oui, Kingsman 2, on va dire, hein, tout simplement. D'accord, il était bien ou pas?
Franchement, ouais.
Ok.
Voilà, pas parfait, mais on en parlera après.
D'accord, comme d'habitude, je vais lui mettre entre 19 et 20. Et je vais mettre 15. Ok. Voilà, c'est la règle. Ensuite, on continue la présentation de la team avec notre cher ami Botan. Applaudissez très fort, s'il vous plaît. Comment ça va, Botan?
Ça va, ça va.
Tout de rose vêtu.
Exactement. Bah, ouais. Il fallait bien. Hein.
Bah oui.
Faut mettre un peu de couleur dans ce studio.
C'est ça. Et on a tous besoin de couleur dans notre vie.
Voilà.
N'est-ce pas, Kurodo?
Moi, sinon, t'es coloré, ok?
J'avoue.
Alors, donc, du coup, ce soir, toi, tu vas nous parler de quoi?
Didadidadidadoum. Qu'est-ce que tu vas nous choisir?
Ce soir, toi, tu vas nous parler de...
C'est le jeu vidéo. Hein?
Tu vas nous parler de jeux vidéo.
De jeux vidéo. Eh ben, je vais vous présenter un petit jeu de Nintendo pas très connu qui s'appelle Monster Hunter Stories.
D'accord, parce qu'on connaît tous la saga Monster Hunter.
Voilà, mais pas celui-là.
Voilà. Celui-là, c'était un secret.
Voilà, c'est ça, c'est un petit peu un secret. Il est passé un peu inaperçu. Et du coup, on va revenir dessus ce soir.
Ok, d'accord. Eh ben, avec grand, grand plaisir, on continue la présentation de la team avec notre cher ami Chamallow. À plus de demain. Comment ça va, Chamallow?
Ça va super bien, et toi?
Ça va super bien!
Ah ouais, wow, là c'est ouf, hein, je suis prêt pour une émission de folie et
d'accord.
Tout.
D'accord.
Oh, je pense que je vais devoir aller me calmer
certaines
un peu.
Personnes, la dernière fois, on se posait la question, est-ce qu'ils consomment des choses avant de venir à la radio?
Non, non,
et heureusement,
naturellement. C'est naturel, ouais.
C'est dans le sang.
Putain, qu'est-ce que ça serait s'ils consomment?
Ouais, ah bah oui, ah bah là, il explose, là. Il parlerait tellement vite qu'on comprendrait rien. Enfin bref, Chamallow, alors, ce soir, il s'occupe de la partie culture, et tu vas nous parler d'un événement qui est, alors, pas forcément connu de tout le monde, au Japon qui est connu par tous les Japonais,
oui.
Clairement. Et si vous êtes, on va dire, quelqu'un dans la culture otaku, il faut vraiment que vous connaissiez cet événement. Et ça s'appelle comment?
Ça s'appelle la Comiquette, c'est sorti derrière les petits fagots, là, comme ça. Et voilà. Franchement, ça envoie du lourd, préparez-vous pour un super dossier.
D'accord, en gros, c'est un peu genre une sorte de Japan Expo, quoi, mais au Japon.
Eh bien, au Japon, avec quelques petites subtilités.
Une sorte de, effectivement.
Une sorte de.
Tout ça, c'est quelque chose que vous allez découvrir petit à petit dans l'émission. On continue la présentation de la team. Alors, il est venu jadis, il est revenu encore, simplement parce qu'il adore la radio, et vous l'adorez aussi, ou vous allez l'adorer, ou vous allez adorer le détester aussi. C'est une option.
Ouais, c'est
ok,
une option.
D'accord. Alors, donc, c'est l'autre choix, celui que Rémi aurait pu prendre s'il n'avait pas choisi Capi. Je vous demande d'applaudir Vitalis, s'il vous plaît. Comment ça va?
Bah, ça va très bien. J'ai beaucoup moins froid que la dernière fois.
Ok, d'accord.
C'est un bon début.
Quelle vie intéressante.
Bah, je vous rappelle la dernière fois, j'étais frigorifié. Hein.
Bah, en même temps, alors, on en parlait sur le chemin de la radio et le mec il me disait: non, mais j'ai adoré, j'ai pu parler avec moi-même. Voilà.
J'ai fait une introspection, c'est vraiment intéressant.
Bah, c'est bien, ok, d'accord. Alors, donc ce soir, pas d'introspection, mais par contre, un dossier, d'accord. Et tu vas nous parler d'un dossier animé.
Oui, exactement.
Okay. Tu vas nous parler alors d'un dessin animé qui est très connu au Japon, tiré en plus d'une série live, ce qui est pas rare, et qui s'appelle
Garo.
Garo. Alors,
après, il y a plusieurs noms, puisqu'il y a plusieurs saisons qui sont totalement différentes les unes des autres, mais on en parlera après.
D'accord, ok.
D'accord, t'as pas fini ta phrase, voilà, là, c'est au courant, là.
Non, j'ai arrêté ma phrase au moment.
En fait, il faut que tu fuis, tu sais, quand tu finis ta phrase, tu baisses, ok.
À méditer, il y a plusieurs saisons.
Et on en parlera après.
Ok, d'accord, pas de soucis. Alors,
faire le geste en même temps.
Ce soir, on a aussi, justement, des invités. Ah, c'est la première fois qu'elles viennent. Elles ont peur.
Oui.
Elle vraiment. Si elle se met à pleurer, Par contre, je vous dis direct, hein, on va pas considérer ça comme quelque chose de mignon. Hein.
Ah non.
Moi, je vais dire direct, ouais, voilà, encore une fois, elle essaye de se faire aimer. La pire des bannières. Voilà.
C'est
elle
ça.
Achète, voilà, notre amour. Mais bon, on va dire que là, elle va donner son maximum. Et donc, je vous demande, s'il vous plaît, d'applaudir Tagada.
Oui.
Tagada, c'est le surnom qu'elle aurait aimé avoir. Mais sachant que son vrai prénom, c'est Mélodie. Moi, avant, par exemple, il y avait un Pokémon que j'aime bien qui s'appelait Mélofée. On l'appelait, et on l'appelait Mélofesse. Je pense qu'on peut l'appeler Mélofesse aussi.
Ah, ça lui va comme un gros.
Non, allez, on va rester sur Tagada, d'accord. Elle a dit qu'il y avait sa famille qui écoute. Par contre, l'émission de la semaine prochaine, c'est fini, là. Plus de pitié, là. Alors donc, Tagada, ce soir, tu vas nous parler de quoi?
De Black Butler.
Black Butler, c'est...
C'est un manga, un animé.
Mm-hmm. Un manga et un animé.
Mais ce soir, tu vas nous parler plus du manga, hein, c'est ça?
Ouais.
Très bien.
Voilà, un peu de confiance en toi, là.
Vas-y, vas-y, t'inquiète pas.
Donc alors, Black Butler, un manga qui est extrêmement connu, hein, la version animée aussi, de toute façon. Voilà, ça fait depuis très longtemps qu'on n'a pas reparlé. Je pense que ça fait du bien, des fois, de revoir un peu classique, parce que c'est pas forcément le manga que tout le monde connaît. Et là, bah, justement, grâce au dossier de de Tagada.
Vous ça commence, c'est l'absurde, déjà.
Et donc, du coup, Tagada vient toujours avec sa moitié, comme elle appelle.
Salut.
Sa sœur jumelle, son âme sœur.
Oui.
Voilà. C'est un, si l'une est tic, l'autre est tac. Si l'autre est M, l'autre est Nemenems. Je vous demande d'applaudir, s'il vous plaît, Lulu.
Oui, tout le monde.
Regarde, regarde comme elle prend la confiance.
Ouais, voilà.
Salut les gens. Salut mes fans. Voilà. Alors donc, comment ça va, Lulu?
Bah, ça va super bien.
D'accord. Alors ce soir, toi aussi, justement, tu vas aider à. Tagada a parlé de Black Butler parce que c'est un manga que tu adores aussi, forcément.
Oui, bien sûr.
D'accord, ok.
Non, franchement, je l'aime bien.
Ok, et bah écoute, si tu l'aimes bien, c'est le plus important. Et donc voilà, ça va être une émission riche en émotions. Allez, maintenant on passe à quelque chose de totalement différent avec notre ami Kulodo qui allait enquêter.
Voilà,
voilà, c'est le bon terme. Micro, voilà. Qui allait enquêter au niveau du dossier geek sur le film qui est d'actualité, tout simplement parce que voilà, il y avait le 1 qui était passé il y a pas longtemps à la télé, hein, qui est quand même considéré comme un classique, et donc voilà, le 2 qui vient tout juste de sortir. Il est sorti ce mercredi, hein.
Ouais, c'est ça. Bah, ce mercredi, voilà. J'y suis allé.
Comme on vous dit, un dossier plein de fraîcheur. Allez, c'est parti pour le dossier de Kulodo.
Petite précision, mais j'ai pas vu le 1.
C'est vrai?
Ouais, non, c'est vrai.
Alors, bah bravo.
Non, mais je connais l'histoire et j'en ai vu des scènes, mais je l'ai jamais regardé en entier. Mais
ah, après, bah bravo.
Il paraît qu'il est très bien. Mais du coup, je pourrais pas le comparer au 1, c'est ça que je veux dire.
Bah, bravo.
Donc, du coup, Kingsman, le Cercle d'Or, ou Kingsman 2, si vous préférez, mm-hmm. Et donc la suite de Kingsman, Secret Service, ou Kingsman 1, si vous préférez.
Ok.
Non, bien vu, je le préfère. C'est une comédie d'espionnage réalisée par Matthew Vaughn, donc réalisateur notamment de Kick-Ass, X-Men Le Commencement et Kingsman 1. Mm-hmm. Sorti donc ce mercredi 11 octobre, pour une durée de 141 minutes.
D'accord.
Donc, l'histoire, je vais faire très vite, hein, histoire de pas vous spoiler. Donc après la destruction du QG des Kingsmen, Exy, donc le héros, et Merlin,
est-ce que tu peux rappeler vite fait, c'est quoi un Kingsman?
En gros, c'est un agent secret. Enfin, Kingsman, c'est un magasin de costards, en fait, c'est un tailleur. Mm-hmm. Et du coup, c'est des agents secrets très british, très
bien habillés.
Toujours avec. Enfin, genre, leurs armes, c'est des parapluies, des trucs comme ça. Enfin, très cliché anglais, quoi.
Ok, d'accord.
Oui. Voilà, donc Exy et Merlin, un autre des Kingsmen qui lui a survécu, ils rencontrent leurs homologues américains, donc les Statesmen. Donc c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être des clichés d'anglais, c'est des clichés de texans. Donc ils ont tous des chapeaux de cow-boy, ils boivent tous du whisky, des revolvers, tout ça.
C'est okay. Excellent, ça.
Voilà. Et donc ils s'en vont affronter Poppy Adams, donc, qui est le baron, enfin la baronne, de la drogue mondiale.
D'accord.
Donc voilà pour le pitch de base.
Ils vont aux States, l'histoire se passe aux States, du coup
c'est ouais, parce qu'en fait... En fait, donc quand leur QG est détruit, mm-hmm. Ils ont un protocole apocalypse, en fait, qui disent bah, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce cas-là. Et en fait, le protocole, c'est une bouteille de whisky. Donc au début, ils se disent « What ?» C'est une bouteille de whisky, quoi. Et au fur et à mesure qu'ils la boivent, en fait, ils se rendent compte que derrière l'étiquette, il y avait leur logo et avec une adresse aux États-Unis.
D'accord, ok.
Du coup, c'est l'adresse des fabricants...
Statesmen.
Les Statesmen, voilà, les fabricants de whisky, le whisky qui s'appelle okay. Statesmen. Et les Statesmen, eux, ont pareil, ils ont un protocole apocalypse, avec dedans un parapluie avec marqué Kingsman dessus.
Pas de souci, d'accord. Alors ça, c'est l'histoire de base.
Voilà.
Alors donc, du coup, les Kingsmen, ils vont aux States.
Voilà. Pour déjà, pour savoir qui a détruit leur repère, quand même, parce qu'ils ont quand même pris des missiles. C'est quand même un film avec quand même pas mal de rajouts, parce qu'ils se prennent un missile qui creuse dans le sol et qui fait un trou parfaitement circulaire de plusieurs kilomètres de large, alors que c'est un petit missile. Donc bon, voilà, tu vois ça, t'es en mode ah, très bien. Et tu vois qu'il y en a partout sur le tout toute l'Angleterre, t'es en mode ah, ok, le pays a survécu à ça, très bien.
C'est le côté texan qui
ressort. Nouveau
missile.
Bah en fait, missile nouvelle génération.
C'est ça un peu.
Voilà. Comme c'est expliqué dans Missile Magazine, quoi. Si t'avais lu le volume 2, et ben voilà,
mais faut
avec le poster j'ai
renouvelé mon abonnement.
Voilà. Alors,
très bien. Donc petite info vite fait autour du film, il a eu un budget de 104 millions de dollars,
ce qui est pas mal.
Bah c'est pas tant que ça, hein. Enfin c'est,
par rapport à
c'est dans la gamme moyenne des films d'Hollywood en fait.
D'accord. Voilà.
C'est pas la taille des titans, quoi.
C'est pas Pirates des Caraïbes 3 qui a été le film le plus cher du monde avec ses 300 millions de dollars.
Ah oui, d'accord. Mal, okay.
Peut-être qu'il a été dépassé.
Mais c'est pas le film de Tokyuume qui avait un budget de 5 dollars.
Un peu moins.
Je comprends. C'est le business.
Ok. Donc au niveau du casting,
Non, le casting, je trouve ça assez bien.
Ouais, vas-y.
Donc, la femme qui joue Poppy Adams, donc l'antagoniste du film, c'est Julianne Moore.
C'est ça.
Qui a joué notamment dans The Big Lebowski et dans d'autres films. Et moi,
Jurassic Park 2.
Exactement. Exy, qui est toujours joué par Taron Egerton. Donc,
qui a joué dans Kingsman 1.
Voilà. Et je crois que c'est le seul truc connu. Après, j'ai regardé, il a fait des petites séries américaines, mais qui sont
pas du
tout connues.
Ouais, un film où il jouait un homosexuel aussi.
Peut-être, je ne sais pas.
D'accord.
Je te fais confiance là-dessus. Merlin est joué par Mark Strong. Donc qui était le méchant de Kick-Ass 1 pour ceux qui voient.
Oui, c'est ça, un mec chauve.
Exactement. Ginger, donc qui est la scientifique, donc en gros l'équivalent de Merlin mais pour les Stateman, donc aux États-Unis.
Elle est coquine ou quoi?
Je sais pas, c'est jamais dit. Elle est jouée par Alberi. Je n'en dirai pas plus.
Ah voilà. Ok, d'accord.
L'agent Tequila, parce que oui, ils ont tous des noms liés à l'alcool aux États-Unis.
Ça, c'est très
en
stylé.
Angleterre, c'est tous des noms genre Merlin, Arthur, tout ça. Et aux États-Unis, bah, c'est tequila, whisky, champagne.
Ça aurait été drôle que ça soit des marques de thé, tu sais.
Tequila joué par Channing Tatum.
Ouais.
Donc Magic Mike.
Entre autres,
exactement.
G.I. Joe.
Et l'agent Champagne, donc qui est en gros le président des Statesmen, est joué par Jeff Bridges, donc connu aussi pour The Big Lebowski, et plein d'autres films que sûrement vous connaissez.
D'accord, ok.
Mais j'ai retenu The Big Lebowski parce que je l'aime bien.
Bah, aussi. Alors.
Voilà. Donc. Alors, vite fait, ce que je pense du film, clairement. Donc, dans les points positifs. Alors, j'ai pas vu le 1, je reprécise, mais. Il me semble que dans le 1 c'est pareil, c'est les chorégraphies des scènes d'action.
Oui.
Alors les mouvements sont super bien foutus. T'as l'impression
voilà.
D'avoir un spectacle.
Un peu dans le rajout, mais
c'est clairement dans le rajout.
C'est totalement assumé, quoi.
Voilà, mais c'est assumé, voilà. Et au niveau des mouvements, bah tu sens que c'est hyper travaillé, tout ça.
D'accord. Avec toujours des, on va dire. Des objets high-tech, voilà.
Oui, alors voilà, le mec a un parapluie qui tire des missiles.
Ce qui est normal.
Oui, bien sûr.
Parapluie qu'on a pu voir dans Parapluie Magazine aussi.
Exactement, bien sûr.
Volume de juillet.
Il a une valise mitraillette, enfin voilà, c'est un petit peu le bordel au niveau des gadgets. Et les Américains, eux, c'est pareil, ils ont genre des battes de baseball avec des balles de baseball grenades, enfin voilà. C'est un peu les clichés, mais bon, ça reste rigolo. Et d'ailleurs, un autre point positif du film, c'est l'humour. Alors, c'est totalement dans le rajout et c'est parfaitement assumé hein, dans le film, ça se voit.
Toi, t'as rigolé ou pas?
Bah quand même, il y a pas mal. Bah un petit passage en particulier que j'ai retenu. Genre à un moment, il se bat contre un méchant qui a un bras robot et genre il arrive à l'éjecter dans un cinéma. Et le méchant au moment où il ressort du cinéma, en fait t'as un petit dézoom sur le cinéma en lui-même et le titre du film à l'affiche c'est The Beach Is Back. Et c'est con mais ça m'a rigolé.
C'est vrai que c'est très lourd mais voilà. Bon. C'est marrant.
Donc voilà, après c'est un film sympa, j'ai bien aimé ces points-là. Et après il y a quelques petits points négatifs mais c'est pas énorme. Bah notamment au niveau des scènes d'action, j'ai trouvé que c'était parfois un peu brouillon. Alors c'est dans le rajout mais du coup la caméra bouge beaucoup et
ça... Ouais c'est ça le truc, c'est quand il y a trop de choses qui se passent après c'est pas trop...
C'était un peu perdu quoi. Ensuite un point qui est pas forcément négatif mais qui est juste un point... Bah, c'est la bande son, genre elle est totalement oubliable de fou quoi.
C'est vrai?
Ouais franchement il n'y a pas une seule musique qui marche.
Franchement dans le 1... bah, il y avait le thème des Kingsmen.
Ouais,
bah,
ça il y a encore, voilà. Mais c'est tout, quoi.
D'accord.
Il n'y a pas de musique catchy, des trucs comme ça.
Bah, c'est vrai que par exemple, dans ce genre de film, je pense que tu t'attendais bien à voir des chansons un peu comme.
Ouais, voilà.
Tu sais, le dernier film qui s'appelle Baby Driver, là, je sais pas si tu as vu.
Oui, bah, voilà. J'adore Edgar Wright.
Au niveau, de ce genre de musique, je pense qu'il serait bien allé.
C'est vrai que ça aurait
Après, à mon avis, c'est sans doute une question de droit aussi.
Oui, c'est fort possible. Parce qu'après, ouais, voilà, c'est un budget pas mal, mais à mon avis, il est tout passé dans la scène d'action.
Il y a moyen à nos compositeurs.
Et par contre, un petit bémol sur la scène d'action du tout début du film, en fait, elle est en animation 3D et c'est. Pas super super bien fait, du coup tu le vois assez vite et ça te sort assez vite du film en fait, c'est un peu dommage. Mais D'accord. Sinon au niveau de la chorégraphie elle est nickel par contre.
Ok.
Et dernier petit point négatif c'est les ralentis des fois qui servent total à rien. Genre les mecs ils ont vu 300 ils se sont dit waouh c'est trop cool les ralentis et on en fout de partout et voilà des fois ça sert à rien.
C'est vrai, même dans la vie des fois.
Voilà.
Après des fois c'est pas vraiment le ralenti hein. Je veux dire par exemple le petit Rémi quand je vois courir.
C'est un ralenti ou pas.
C'est pas un effet hein. C'est...
Ou bien, là, un mec qui arrive à choper un couteau au vol avec un fouet, là c'était ralenti quand même. Après, ça, ça le couteau vole vachement doucement quand même.
Hein?
Sinon le couteau il vole vachement doucement.
Et ça arrive. Si t'avais lu Couteau Magazine.
C'est vrai, je demande plus à l'avenir. Okay. Voilà voilà. Et pour finir vite fait, alors le réalisateur était connu pour avoir une règle d'or qui était de ne jamais faire de suite.
Mais...
Et donc eh bah, du coup il a fait sa première suite avec Kingsman 2. Et il a dit qu'il aimerait bien faire Kingsman 3. Et qu'il aimerait bien qu'il y ait The Rock comme méchant dedans. Aussi,
ouais, The Rock en méchant.
Ouais, il veut The Rock en méchant dans Kingsman.
Ça peut être vachement drôle.
Donc, bah j'attends Kingsman 3.
En même temps, The Rock, il est un peu de partout.
C'est vrai,
dire,
moi, c'est pas. J'adore The Rock.
Je trouve qu'il est toujours très drôle dans les films, en fait. Il arrive toujours à
faire des trucs drôles.
C'est The Rock. Mais ils pourront pas gagner contre lui, c'est The Rock.
Ah oui, bon, bah après.
À la fin, ils mourront, on sait pas.
Bah oui.
Peut-être, bah ça fera la série, remarque.
Ah, et petit truc que j'ai oublié, c'est adapté d'un comics à la base.
Oui, c'est ça.
C'est tout, voilà.
À pas oublier. D'accord, ok. Et si tu devais lui mettre une note?
Je mettrais 15 parce qu'il est bien, mais voilà, il a ses petits défauts qui entachent un peu dessus.
Ah, 15 voilà. Après, de toute façon, c'est
ouais,
une bonne
c'est
note.
C'est une bonne note.
Voilà,
très
bien, ok.
C'est un bon film quand même, voilà, allez le voir.
Ok, d'accord. Oubliez pas le conseil de Kulodo, allez le voir.
Oui.
Après, le fait que tu te sois fait inviter et que t'es pas payé, est-ce que ça joue dans. Voilà,
ah, ça,
dans
ça la donne note. Plus 1 au film quand même.
D'accord, ok. Ça veut dire que si t'avais dû payer, ce serait 10.
Plus 2, il y avait du popcorn.
Hein?
Plus 2, il y avait du popcorn.
Ah, ouais, 17
ouais,
alors.
Ouais, on se rejoint.
Ok, bah un bon 17 sur 20, grâce au popcorn notamment. Je sais pas ce qu'il fait inviter, mais elle est super sympa. Hein.
Ouais.
Enfin, je dis elle.
Il ouais.
Est, on sait pas. Voilà. Ça va trop, bon.
Est-ce qu'il est portugais? Non. Alors. Donc du coup voilà, c'était le dossier geek de la semaine, en l'occurrence Kingsman qui vient juste de sortir. Film qu'on vous conseille, hein, en fait c'est un peu un défouloir, vous inquiétez pas, vous n'avez pas beaucoup réfléchir. Voilà, vous allez en prendre plein les yeux et je pense des fois ça peut faire du bien quoi, surtout qu'on a eu une semaine difficile. Kingsman au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas vous prendre la tête quoi.
Ça fait la petite pause quoi.
Voilà, ah, c'est, oui, c'est ça, le petit break quoi. Allez donc, vous êtes toujours sur Cola FM pour l'émission Tokyo Humé. Maintenant ce que je vous propose c'est d'attaquer avec, allez on va faire le dossier culture avec notre ami Chamallow. Qui va vous parler, comme on vous l'a dit, d'un événement alors indispensable pour ceux qui aiment la culture otaku quand vous êtes au Japon.
Préparez-vous.
Donc voilà, c'est The Big Event à voir. Et donc Chamallow, toi tu l'as fait.
Exactement.
Parce que je me rappelle qu'il y a plein de fois on se regardait et on disait on l'a fait, on y est.
Ouais, à pas bah, sortir du contexte évidemment, mais sinon évidemment.
Ah non, c'est bien ce que je dis.
Ah oui.
On l'a fait, on y est.
On parle pas de la même chose alors. Ok, alors avant de commencer, je vais vous raconter une histoire. Alors non. Ça m'est arrivé cet été. Imaginez simplement Rio et Capi, comme on l'appelle, qui créent des mangas ensemble et qui veulent donner de la visibilité à leur création. C'est des lycéens, ils sont gentils et tout, et ils décident d'organiser un petit événement cool pour donner plus de visibilité à ce qu'ils créent. Et un jour, sans le savoir, ils arrivent à créer ce qui deviendra un des plus grands festivals manga du monde. Et oui, c'est comme ça qu'a commencé en fait le festival qui s'appelle la Comiquette. En fait, c'est deux petits étudiants qui ont décidé justement de créer un petit événement sympa. Et après, ça a pris énormément d'ampleur. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons parler de la Comiquette, ce qui veut dire en fait Comic Market, en compressé, ah, en concaténé. Ouais, sinon, avec la prononciation japonaise, ça donne Komiku Marketo. Voilà.
Okay.
C'est la plus grande convention du manga et de l'anime au monde. J'ai regardé sur internet, c'est énorme. On y trouve de tout. Et on trouve par exemple des mangas, des fanmade, des cosplays, des accessoires, des dédicaces, des pervers. Voilà.
Par contre, là, faut vraiment enlever tout ce qui est culture geek. Hein. Là, vous n'aurez pas voilà, de. Voilà, Marvel et autres, ça sera vraiment que du manga.
Il n'y aura pas de Disney non plus.
Non plus.
Je ne crois pas.
Voilà.
Et ça a lieu tous les deux fois par an au Tokyo Big Sight, donc qui est une énorme tour qui se trouve sur Odaiba, donc qui est une île artificielle qui se trouve au Japon. Donc, du coup, on va suivre le récit de mon superbe voyage. Donc, je suis un enquêteur professionnel et je suis allé enquêter, j'ai volé le travail de l'inspecteur Kenasson, mais c'était pour la bonne cause. Je suis allé au Japon exprès pour ça, j'en reviens les mains vides mais les yeux remplis, sans vouloir être dégueulasse.
Et... Franchement, faut faire gaffe à ce que tu dis, hein, parce que ouais, quand c'est ce qu'il y avait là-bas,
ouais,
tu dis que tu reviens avec les yeux remplis.
Ouais, c'est vrai, c'était
rempli trois petits points, quoi.
Et donc du coup, nous allons voir de plus près, mais pas trop près pour éviter les
d'être rempli,
justement. Oui. ce qu'il y a dans cette convention. Alors, nous allons d'abord nous intéresser à l'histoire du Comiquette. Le premier Comiquette a eu lieu le 21 décembre 1975. Donc voilà, il y avait une trentaine d'artistes.
C'est pas récent quand même, hein, 75.
Ouais, 75, ça fait un petit moment
ça
déjà.
Fait 42 ans.
Il y avait une trentaine d'artistes amateurs qui se sont regroupés pour présenter leurs fan-made, c'est-à-dire les mangas qu'ils ont créés.
parodiques, disons, des œuvres qu'ils aimaient bien. Donc,
voilà, des reprises, des espèces de spin-off faits par les fans, quoi.
C'est ça. Les mangaka sont appelés. Il s'agit de mangaka amateurs qui créent ce qu'on appelle des doujinshi. Donc, doujinshi qui signifie la fan-made et les mangas parodiques en général. Donc, c'est souvent dégueulasse d'ailleurs pour la plupart du temps.
Oui.
Donc dans cette petite convention, il y avait 700 visiteurs à peu près pour la première convention, pour la première comiquette, et elle a duré seulement 3 jours. Par contre, on a pu y trouver pas mal de choses, et puis on a pu y trouver par exemple des jeux, de la musique également, donc des Dojin Game et des Dojin Ogaku, donc voilà, ça c'est les jeux et la musique qui ont été également créés par des fans, et des professionnels plus officiels sont présents de nos jours dans la comiquette d'aujourd'hui. Au niveau du cosplay, il y a pas mal de personnes cosplayées, et il n'y a pas énormément de grosses armures d'ailleurs, maintenant que j'y pense, il y avait surtout pas mal de robes, etc. Enfin bon, bref, c'était, il n'y avait pas énormément d'armure qui partait dans tous les sens, etc.
De gros badass à la WoW en mode orc.
Exactement. Et puis maintenant, de nos jours, et ben, la Comiket est un des plus grands événements. Il y a à peu près 400. Il y a eu 400 000 visiteurs à celle à laquelle on est allé.
C'est
2017.
Énorme. Hein. C'est énorme.
400 000 visiteurs.
Tu sais qu'à Japan Expo, c'était encore dans les 200 000. Hein, et franchement, c'est impressionnant de voir.
Après, ça dure plus longtemps en plus, Japan Expo. Ouais.
Ça dure
beaucoup plus longtemps.
Après, en même temps, on les a vus aussi, hein, les 400 000. Hein.
Oula, oui.
On a pu les compter.
On a même nagé à l'intérieur. Hein. Oula, là.
Ils ont même réussi à nous dégoûter, à nous donner envie de nous casser. Donc, ça vous dire à quel point c'était chiant.
N'est-ce pas? Ouais, donc 400 000, c'est un tout petit peu moins que la Tokyo Anime Day de l'année dernière. C'est le festival qu'on a organisé.
Ah, 2-3, ouais.
Oui.
Après, ça, c'était avant qu'on ait un concert d'une Asuna et d'une Kuroko.
C'est ça.
Là, je peux vous garantir que l'année prochaine, c'est 800 000.
Ouais, c'est ça sera complètement
jamais.
Fou.
Jamais. Hein, je le referai plus jamais.
Ah, merci pour Jean-Philippe.
Oh alors. Non.
Alors, ce qui est très intéressant dans cette convention, c'est qu'en général, les articles qui sont vendus sont uniques. Alors, du coup, leur valeur peut augmenter, elle peut multiplier par 10, voire par 100 au fil des années parce que, bah, justement, il y a un seul exemplaire à chaque fois. Donc, il y a les professionnels qui y sont et qui vendent leurs choses. Alors, maintenant, on va regarder un petit peu mon impression à moi. Quand on est arrivé, donc c'était à peu près 8h du matin, l'ouverture était à 10h, et on avait fait peut-être une heure de trajet, donc on était bien... On était bien à fond, mais il faisait déjà très chaud. Et on est arrivé, il y avait des parcs entiers qui étaient remplis de japonais, qui avaient des livres, des jeux, des bouteilles d'eau. Ils étaient couverts de la tête aux pieds en mode oh là là, on a passé la nuit ici. On aurait dit qu'ils avaient passé la nuit ici, vraiment. Et puis ils attendaient dans le parc patiemment l'ouverture en fait du festival. Donc il y avait des gens qui distribuaient des tracts et des goodies. Il y avait des éventails de pervers, donc j'en ai gardé un au petit souvenir. C'était super cool.
En souvenir, bien sûr.
Et puis on a eu un grand débat pour savoir si on restait ou pas, parce que c'est vrai que rester 2 heures à attendre dans la chaleur, c'était pas GG. Alors on a décidé d'aller faire un petit tour à Odaiba pour voir le Gundam qui était à moitié plein,
à moitié détruit par un autre Gundam.
C'est ça. Il y avait un combat de Gundam et puis on s'est dit on va revenir un petit peu plus tard. Donc nous sommes revenus vers les 13h avec notre petit sandwich. Donc on est entré, il y avait des énormes bâtiments et des halls qui étaient remplis de monde. Vraiment, on est en fait je sais pas si vous voyez le concept de marée humaine, bah là c'était exactement ça. On pouvait vraiment nager dedans, c'était quasiment pareil. Alors,
c'est les illuminations
convention...
à Lyon, quoi.
Ouais, voilà.
C'est le truc où tu te laisses porter par la foule comme ça et ça avance dans un sens. Tu sais pas trop où t'arriveras.
En fait,
mais...
on se fait emporter, quoi. On peut pas lutter contre le courant ni rien, bref. Et du coup, dans la convention, on descend en fait des escaliers qui mènent en général. Enfin, nous on est arrivé dans le premier hall et on arrive dans une énorme salle avec des stands de partout. Alors on se dit, ouais, c'est trop cool, on va avoir super plein de choses et tout. Et puis là, on voit des posters de partout avec des nanas à poil dessus. Et puis,
sinon c'est pas drôle.
Et puis oui, c'était vraiment que des posters de nanas à poil. Il y en avait de partout, c'était terrible. Il y avait des filles, des femmes, des vieilles, des monstres, des animaux. Il y en avait vraiment pour tous les goûts, même pour Capi. Et franchement, on pouvait pas imaginer pire. Il y avait même des gamines avec des tentacules de partout et tout. Enfin bon, c'était vraiment
hardcore.
Ouais, c'était un côté un peu, voilà, ça nous a un petit peu freiné.
Surtout, ce qu'il faut vous dire, c'est que imaginez un endroit qui est assez confiné, où il y a très peu d'espace. Vous avez plein de mecs absolument dégueulasses, hein, faut dire ce qui est, une chaleur de ouf,
oui.
Et que des trucs de cul tout autour de vous. Je peux vous garantir que c'est effrayant.
Ouais.
Surtout quand vous voyez la salle et vous dites allez c'est bon, on va y échapper, on va aller dans une autre salle. Et là vous vous rendez compte que c'est exactement la même.
Dans l'autre salle.
Non, c'est pas possible.
Alors que ça fait la taille d'un stade de foot, mais à chaque fois c'est toujours pareil.
Mais heureusement il y avait d'autres salles et c'est là que ça a été plus cool.
Ouais, c'est ça. Et le pire c'est de se dire que t'as des gens qui sont là depuis 6h du matin pour et qui font la queue pour voir ça, quoi. Enfin, et du coup coup, vers 14h, je me suis pris un mal de tête dans la gueule, je me suis mis en PLS dans un coin, et puis je me suis réveillé, c'était déjà la fin. C'est triste. Mais le reste de mon groupe est allé suivre l'enquête, ils sont allés jusqu'à l'autre hall, et a pu trouver des choses intéressantes.
C'est vrai. Moi, je peux témoigner, du coup, vu que je fais partie de ce groupe-là.
Donc voilà, Rio va pouvoir compléter la suite que j'ai ratée.
Moi, j'ai visité toute la comiquette, et c'est vrai qu'en fait, une des grosses différences avec la Japan Expo, c'est, alors, au niveau de la taille, c'est grand. Mais par contre, en fait, il y a beaucoup moins de choses. Il y a beaucoup moins de stands, faut dire ce qu'il y a. Et surtout, en fait, les allées sont beaucoup plus aérées. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, à Japan Expo, ils essayent vraiment de gagner un maximum de place pour les stands et autres, pour qu'il y ait un maximum de choses. Et en fait, au Japon, ils fonctionnent pas de la même manière. En fait, eux, ils veulent vraiment qu'il y ait de l'espace, qu'ils puissent circuler un minimum. Sauf pour la partie, à mon avis, d'Ujin, qui est la partie la plus populaire, où là, ils savent qu'il y a quand même une grosse demande.
C'est méga populaire.
En fait, vous avez la plupart, c'est que des professionnels. On va dire en général, c'est pas des éditeurs de manga, c'est surtout de l'animation, hein, d'accord. Donc vous avez les différents studios qui sont là et qui vont vendre par exemple des stores en tissu, quelques figurines, mais que des produits en général que vous trouvez, comme tu dis, que là-bas. Comiquette. Et c'est vrai qu'en fait vous aviez une partie aussi cosplay. Ce qui était bien pour les cosplayers, c'est que c'était sur le toit de du grand bâtiment. Vous avez tous les cosplayers qui se retrouvent avec plein de photographes. Semi-professionnel, on va dire. Comme ça, après, en fait, du coup, ils ont vraiment ce lieu de rencontre où, eux, ils peuvent se faire photographier par des gens qui sont très bons. Et inversement, les photographes ont des modèles, quoi. Ouais. Et après, il y avait encore d'autres espaces comme ça. Mais c'est vrai qu'il fallait un peu fouiller. C'est vrai que quand on connaît pas trop, nous, on a eu la chance d'être aidés par des gens très bien, on va dire là-bas. Mais c'est vrai que d'un côté, j'avais quand même l'impression d'avoir un peu moins de choses que. Qu'à Japan Expo, ouais. Ça fait un peu bizarre, mais c'est vrai. Et surtout que je pense que pour un événement comme ça, le fait de pas avoir du vidéo, ça fait quand même vachement bizarre.
Ouais.
Et le
ça
fait
doit
de
faire
pas
vachement vide aussi.
Ah bah oui. Bah surtout en fait, le truc c'est que quand on nous dit que c'est le plus grand événement, encore plus grand que Japan Expo, c'est vrai qu'en fait le truc c'est que je pense que c'est deux choses qui sont pas forcément comparables par rapport au thème. Oui. C'est-à-dire que par rapport au contenu. La comiquette a vraiment pas du tout cet objet. Tandis qu'en fait, Japan Expo, je pense que c'est une convention qui veut répondre à vraiment à un maximum de choses. C'est pour ça qu'on trouve du geek, on trouve de otaku, du manga, de l'animé, de la culture, du jeu vidéo. Enfin, c'est comme Tokyo Hime en fait.
Ouais,
nous, on est plus Japan Expo que comiquette.
Exactement. Et puis ouais, comiquette, c'est surtout orienté en fait dessin animé. Donc si jamais on peut faire une conclusion de cette petite visite et cette grande découverte, je pense que moi je suis allé dans le mauvais hall. Et puis que si jamais j'avais été un visiteur qui voulait découvrir le manga, j'aurais peut-être être dégoûté.
Déçu un peu. Ouais.
Donc si vous voulez découvrir le manga, faites attention à pas vous tromper. Parce que sinon vous serez vraiment dégoûté.
Ce qu'il faut en fait, c'est tout visiter, c'est ça le truc. En général, c'est qu'il faut pas rester à un seul endroit. Il faut essayer de visiter tout le bâtiment. Mais après, il faut se renseigner, il faut fouiller un peu. En général, il y a des plans et c'est sûr que si on les regarde pas, mais bon. Après
moi,
aussi.
Par exemple.
Non mais le truc qui joue, c'est comme tu dis, c'est la chaleur, la fatigue et autres. Ça donne pas forcément envie de bouger dans tous les sens quoi.
Oui.
Mais il y a un autre détail aussi. Je sais pas si tu as dit le prix de l'expo.
Ah oui, ça coûte absolument rien.
Voilà, c'est que c'est gratuit et ça je trouve.
Donc
quand
je
même...
regarde Kulodo pour ça.
Ah bah oui, non mais surtout en plus quand on compare avec Japan Expo qui année après année augmente le prix. Le samedi on en est à plus de 20€. Le dimanche on en est à quasiment 20€. Vous vous rendez compte que pour deux jours on approche des on a
40€
et même
à
un
là,
peu plus je crois. 40 balles tandis que là vous avez rien à payer. Je trouve que c'est quand même pas négligeable, quoi.
Exactement.
Donc voilà. Mais si tu devais lui mettre une note à l'événement,
je mettrais quand même au moins 16, parce que je trouve que ça a énormément de potentiel et beaucoup de ça a beaucoup de richesse productive en fait, richesse produite. Voilà, c'est ça. C'est le résultat de travail de beaucoup de personnes qui est réuni et puis je trouve ça impressionnant en fait.
Oui. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a beaucoup de fans aussi.
Contrairement à la Japan, surtout, t'as beaucoup plus d'amateurs en fait, donc c'est pas mal amateurs aussi de se faire voir et de se faire connaître.
Moi, c'est quelque chose que j'aime bien justement.
Et je trouve ça très intéressant aussi.
C'est que t'as les professionnels, mais en même temps, je trouve que t'as un gros côté amateur. Des gens qui sont juste là pour montrer leur travail, qui sont pas qui vivent pas forcément de ça.
Ouais.
Et c'est très bien, une très bonne chose. Contrairement par exemple Japan Expo,
la passion, quoi,
où Japan Expo, on met beaucoup en avant le côté commercial et tout, chose qui est totalement vrai, hein.
Oui.
Mais voilà quoi. C'est pour ça que pour moi, c'est plus deux choses complémentaires, deux événements complémentaires que vraiment comparables. Ah, c'est comme dans la vie, quoi. En général, quand on peut faire les deux, on le fait, quoi. Alors, fais pas chier, quoi.
Je ne victimise pas.
Ah, on dirait que tu parles à Jean-Phi.
Arrête.
Donc, du coup, moi, ce que je propose, c'est de changer de domaine. on passe au monde de l'animation avec alors un dessin animé qui est cartonné au Japon et c'est notre ami, arrête de dire le nom, ça me fait rire, Vitalis qui va vous présenter le dessin animé Garo. Allez, voilà. C'est parti.
Alors le dessin animé Garo, du coup, c'est peu dire puisque avant d'être une série d'animation, Garo, bah, c'était une série live qui a très bien fonctionné, qui a commencé en 2013. Donc pour sa première saison, j'ai regardé le premier épisode. Moi personnellement, bon, c'est pas mon style le live.
Bah après, faut aimer, voilà, c'est ça. Faut aimer le live.
Ça change de The Rock. du coup, donc il y a eu donc deux saisons live, donc une en 2013, une en 2014. Et moi, je vais vous parler donc de la première série d'animation qui est sortie en 2014 aussi. Mais
qui parle de la première saison de la série ou pas?
Non,
du
non,
tout
non, 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 non. En fait, ça se passe bien avant, en fait. La série live, c'est actuel.
Ouais.
Et la série d'avant, c'est plus à c'est à le Moyen Âge.
Garo, c'est entre guillemets un bon univers où il va y avoir sur des différentes saisons, que ce soit des séries d'animation ou des lives, qui restent entre guillemets dans le même monde, mais pas du tout à la même époque. Et du coup, il y a toujours certaines choses qu'on retrouve et qu'on sait que c'est bien la, entre guillemets, la même histoire, les mêmes enjeux.
Ouais, c'est juste l'époque en fait qui va changer quoi.
Et donc ça amène de nouveaux types d'ennemis.
Au passage.
Il y a une différence entre les paysans et l'armée quoi, par exemple.
Oh, ça dépend.
C'est une belle phrase.
Avec une bonne fourche. Okay. Moi je vais vous parler donc, de la première série d'animation. Donc ça s'appelle Garo, excusez-moi pour la prononciation, Ononoko Queen. Ononoko Queen.
D'accord, ok.
C'est pas mal, hein.
Oui, ouais, c'est pas mal. C'est très japonais, quoi.
Ah, merci, c'est gentil. J'ai beaucoup travaillé mon accent.
Ouais, bah, je suis d'accord avec toi, en fait. À la base, c'était comme ça.
C'est très raison,
c'est parti totalement en vrille, quoi.
Donc, pour commencer, bah, donc, ceux qui ont. Ah, celle qui a écrit donc, le scénario de cette première saison. C'est Yasuko Kobayashi. Alors elle a participé au scénario de Shingeki no Kyojin.
D'accord.
Et
c'est pas rien.
Oui, c'est pas rien quand même. Mais elle a aussi participé encore plus à la création d'une des saisons de JoJo's Bizarre Adventure.
Ah, oui. D'accord. C'est pas rien non plus.
C'est la fin.
Bon, après à la base c'est basé sur le manga hein, donc.
Oui voilà c'est ça. C'est
on va dire qu'elle est plus là pour adapter à l'animation.
Elle a pas tout fait quoi.
Ok d'accord. Oui elle a pas tout fait, c'est souvent le problème. Ouais.
Alors le studio d'animation donc qui a aidé pour qui a participé pour cette saison là, c'est MAPPA qui a donc fait aussi Yuri on Ice.
D'accord.
Donc, c'est pas rien.
C'est du lourd.
Pour citer que celui-là. Donc alors, le résumé de ce très bon manga, de mon avis. Comment dire ? Alors ça se place dans un monde, donc c'est le monde de Valiant.
D'accord.
C'est un peu. C'est un temps moyenâgeux, c'est un peu l'inquisition espagnole, on va dire.
D'accord.
C'est-à-dire qu'en fait, c'est.
Personne s'y attend, du coup.
Bah, comment ça? C'est-à-dire.
T'as pas la référence? T'as pas la référence. Désolé.
J'ai pas assez de culture. Ah, mais les Monty Python.
Voilà, c'est ça.
Je les ai vus. C'est l'Inquisition espagnole, donc c'est une époque moyenâgeuse. Et dans ce monde-là, il y a entre guillemets des sortes de démons qui existent, qui se nourrissent de la peur, des mauvaises intentions, en fait, des humains. C'est-à-dire que, comme ils le disent dans le manga, tant que les humains
existent, ces démons-là existeront.
Ces démons existeront parce que tous les humains ont peur, tous les humains ont des envies.
Tous les humains sont colériques, ils ont faim, ils ont soif, ils sont amoureux.
Et oui. Pas amoureux par contre.
Non, ils ont envie de tuer des gens plutôt.
Ouais, voilà.
Ouais, ok, d'accord.
Et donc ces créatures-là s'appellent les Aurores.
D'accord.
C'est plutôt original. Et dans ce monde-là, il y a des donc les chevaliers Makai et les prêtres Makai. C'est ceux qui vont donc combattre ces Aurores.
D'accord.
Il y en a qui me regardent bizarrement.
Jusque-là, ça va.
Un jour, tu vas.
On est un peu dans cette direction.
Tu vas faire un lapsus là.
Je vais faire comme ça.
Tu vas me tromper.
Et donc. Ah, j'arrive plus à parler maintenant, bravo.
Et donc, les chevaliers des prêtres Makai.
Alors eux, c'est ceux qui vont se... Bah, en fait, ils font en sorte de protéger les humains, c'est-à-dire qu'ils vont combattre les aurores, mais sans que les humains soient au courant.
D'accord.
C'est-à-dire que si les humains l'apprenaient, ce serait comme qui dirait la panique.
À peine.
Ouais, ce qui ferait qu'il y en aurait encore plus, donc ils doivent rester dans le secret. Et la trame de l'histoire, c'est un homme, un prêtre Makai, qui lui, comme tous les grands méchants, vaut juste le pouvoir, à vrai dire, et qui est conseiller du roi actuel. Et il va s'arranger en fait pour. Parce que les aurores, il y a forcément des traces au bout d'un moment. Il y a des victimes, il y a des morts, et c'est compliqué de cacher tout ça, et c'est pas très naturel. Donc il va lancer une sorte de chasse aux sorcières pour en réalité se débarrasser des chevaliers Makai, vu que comme personne ne les connaît, les gens ne font pas la différence.
Et, effectivement, c'est une technique efficace.
C'est bien pour se débarrasser des gens. Et donc le personnage. Et ensuite on va suivre l'histoire du personnage principal qui commence à partir on va dire de ce moment quand la chasse aux sorcières commence, où le premier épisode commence directement là-dessus. On voit un bûcher qui est allumé avec dessus donc une prêtresse Makai qui est donc prise pour une sorcière, sauf que cette femme est enceinte.
Ah.
Voilà, enceinte du héros.
Ah.
Sauf que il brûle quand même
le tout.
Voilà,
c'est un pack.
Ouais, ils arrivent à enlever l'enfant hein, avec le DLC.
Voilà, c'est ça.
Et donc ça c'est le début. Après quand la mère se fait brûler, le père arrive entre guillemets comme par magie et sauve l'enfant. Et l'histoire en fait, on va suivre l'histoire de cet enfant, Léon, qui en fait tout le long, lui tout ce qu'il veut c'est sa vengeance. Parce qu'il sait qui a fait ça et il veut s'en débarrasser, mais à côté il y a son. C'est son devoir en fait, c'est ouais. Un chevalier Makai. D'accord. Et il se trouve que c'est un des plus grands chevaliers Makai. Contre voilà. Sa volonté, c'est le plus puissant des chevaliers Makai, sauf qu'il doit gérer entre guillemets.
Pour une fois, t'arrives avec un personnage complètement pété.
Voilà, dès le voilà. Début, il l'est, on le montre totalement, il est totalement pété.
C'est quoi son pouvoir en fait, Loup-Garou?
En fait, comment dire, ils ont pas spécial. C'est plutôt leur armure, leur pouvoir. C'est-à-dire que ces chevaliers, donc, ils ont tous une petite épée, très sobre en fait, qui a une poignée, une lame, plutôt courte, même pour ceux qui ont une épée. Et c'est entre guillemets cette épée qui, comment dire, qui contient l'armure.
D'accord.
Sauf que tout le monde ne peut pas utiliser cette épée. Tout le monde peut utiliser l'épée, mais tout le monde ne peut pas entre guillemets l'activer pour
avoir
l'armure. Et donc, lui, il possède donc l'armure de Garou, c'est l'armure du chevalier d'or.
D'accord.
C'est clairement
une référence.
Ensemble, un chevalier d'or du lion, clairement.
Et c'est lui qui possède l'armure la plus puissante. Donc, en fait, au fond, il a juste plus de puissance que les autres. Après, c'est sa technique à lui qui fait que c'est un bon combattant. Sauf que, à côté, durant toute la série, il va devoir, pallier avec. Il a une grande rage en lui, mais bien plus que. C'est dans un monde magique et cette rage, elle s'est presque matérialisée en lui. C'est comme une malédiction et tout le long, il va devoir gérer ça.
Combattre ça.
Entre lui, à l'intérieur de lui, il y a une colère intense. C'est normal, on a brûlé sa mère.
Avec et l'enfant.
Et oui, bah c'était lui. Du
ah
coup,
non, c'était lui l'enfant.
Ouais, pendant sa naissance, tu vois. C'est encore pire.
Alors, justement, là, on a l'histoire très rapidement. Donne-nous ton avis alors. Qu'est-ce que
alors, mon avis, je trouve il y a beaucoup de points positifs dans ce manga, notamment les dessins. Enfin, l'animation, elle est géniale. Même si pendant les combats, alors là je vais avoir besoin de quelqu'un, je ne me rappelle jamais comment ça s'appelle. Vous savez, cette animation qu'on a.
Un peu en 3D là?
Oui,
la CGI?
Oui, voilà, la CGI. Alors elle y est dedans, mais elle est plutôt bien gérée. C'est-à-dire qu'elle pique pas les yeux. Hein. Il y en a où c'est vraiment.
Il y en a où c'est vraiment dégueulasse, où voilà. Ça fait des grosses baisses d'image là.
Mais dans ce manga, enfin dans cette série là, ça passe plutôt bien en fait. C'est propre.
D'accord.
Et donc les dessins sont vraiment géniaux. Il y a un style que j'avais jamais vu avant. Et l'univers qu'ils ont placé, ça amène des développements de personnages plutôt importants. C'est-à-dire qu'on va vraiment dans leur histoire. Et pour tous les personnages, on développe vraiment leur histoire. Ils ont vraiment quelque chose.
C'est pas le personnage poubelle.
C'est ça. En vrai, je crois qu'il. Non, il y a absolument aucun personnage poubelle. Ils sont tous vraiment très bien développés.
D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que t'as pas aimé dans le dessin animé?
Alors, du coup, le CGI qui est. Moi, ça me déplaît toujours un peu. Mais pour moi, c'est un peu le seul point négatif parce que le manga se déroule très bien. Je trouve qu'il n'y a pas, d'ellipse, il n'y a pas de creux où on aime.
Il n'y a pas trop de temps mort alors.
C'est ça, c'est bien, c'est bien rythmé.
Ok, d'accord. Donc alors, si tu devais lui mettre une note, ce serait combien?
Bah, du coup, je suis pas objectif forcément, mais une note, c'est quand même un de mes mangas préférés. Donc...
Tu sais, j'aime bien avec la chanson là. tu vas choisir.
Je dirais 18,5.
Ok, d'accord. Eh bah, allez, c'est validé.
C'est beau.
Ça 18,5. dessin animé qui s'appelle Garo, donc dossier de notre ami Vitalis. Ne vous fiez pas à son nom et regarde aussi des dessins animés récents, on va dire. Donc voilà, 2014 et voilà, une série à découvrir, hein, sachant qu'il y a eu d'autres choses qui sont sorties sur l'univers de Garo. Si vous aimez les dessins animés, sachant qu'en plus il y a un film qui fait suite justement par rapport à ça, et donc il va peut-être un jour un autre dossier là-dessus. Allez, maintenant on passe à autre chose. On va faire un peu de jeux vidéo, d'accord, pour augmenter l'émission de Tokyume avec justement la saga Monster Hunter,
voilà,
sortie sur 3DS cette fois-ci.
C'est ça, c'est ça. Bah comme maintenant tous les jeux Monster Hunter, malheureusement, j'ai envie de dire, puisqu'on profite pas notamment de la Switch, qui aurait pu être un super une super console pour développer un jeu Monster Hunter.
Le nouveau Monster Hunter, celui qui va sortir, il sort sur
PC. Je sais pas s'il sort sur Switch. Je crois qu'il retourne sur chez Sony.
D'accord.
À l'origine, okay, c'était des jeux Sony, c'était sur PS2, et donc là, il y a aussi.
Non, il est pas sur Switch.
Voilà, donc il tourne que sur PS4. Non,
d'accord.
Voilà. Donc on va parler de Monster Hunter Stories. Alors le jeu vidéo est sorti le 8 septembre 2017, donc il est assez récent. C'est un spin-off de la série Monster Hunter, série phare de Nintendo, enfin surtout au Japon, dans laquelle on chasse des monstres afin d'avoir des équipements particuliers permettant d'affronter d'autres monstres, etc., etc. Donc c'est une très très bonne série de combats dynamiques au demeurant. Donc si vous aimez les Dark Souls et tout comme ça, une version japonaise, ce serait ça. Donc mais là on va parler de ce petit spin-off qui est plutôt sympathique, je dois avouer. Donc Monster Hunter Stories, comme je l'ai dit, est un spin-off de la série des Monster Hunter, et ici on a un RPG tour par tour, ce qui est différent du coup de la série originale, qui elle est un action RPG où l'on esquive les attaques ennemies pour riposter avec des armes. Avant tout, je précise que j'ai pu découvrir le jeu qu'au travers de Let's Play, malheureusement, parce que j'ai pas eu la chance de l'avoir entre les mains. Mm-hmm. Voilà, mais ça m'a pas empêché de regarder un peu plus ce qui se passe dedans. Donc on va jouer cette fois-ci non pas un chasseur mais un rider que nous créons au début du jeu, donc c'est pas un personnage particulier. Les riders qui vivent dans un village reculé et qui ont eu la tradition de s'allier aux monstres afin d'en combattre d'autres. On a donc un jeu style un peu Pokémon, ou je dirais plus dans la veine des Dragon Quest vu l'univers, dans laquelle on va essayer d'avoir une équipe de monstres différents afin de prévenir et de gérer la plupart des situations.
Au niveau du gameplay, c'est comme un Dragon Quest ?
Ouais, c'est un petit peu entre ces jeux-là,
un
peu
Dragon Quest.
Voilà, c'est un tour par tour, d'accord, avec des actions assez précises, enfin, qui peuvent changer en fonction des personnages et des monstres. Donc, dans ce jeu, on va commencer avec un petit avec notre personnage, donc, et un monstre qui ressemble à un Vélociraptor et qu'on appelle un Vélocidrome. Voilà, pour ceux qui connaîtront. On va donc alterner entre phases de combat et d'exploration pour remplir des quêtes. Les phases d'exploration, elles se font soit à pied, soit à dos de montures. Les montures étant en fait les monstres.
D'accord.
Chaque monstre a donc une capacité de terrain différente qui permet de franchir des obstacles ou d'accéder à des zones cachées en trouvant des secrets, etc. Ou à aller à des tanières. Donc des tanières, je vais expliquer ce que c'est juste après. Donc en plus de ça, lors des phases d'exploration, donc on peut trouver ces fameuses tanières qui sont des espèces d'entrées de grottes qui sont générées aléatoirement sur le terrain, ce qui est plutôt sympa puisque ça permet de revisiter les zones et de redécouvrir des choses. Et à chaque fois que l'on entre sur une map, on peut en avoir des nouvelles. Ça nous permet de rentrer dans un mini donjon dans lequel on va trouver des ressources, des monstres, mais aussi un nid. Un nid dans lequel on va bien avoir souvent une maman qui protège son nid, parce qu'il en faut bien une, mais aussi des œufs. Et les œufs, on peut les faire éclore pour avoir nos monstres. Voilà, donc c'est comme ça qu'on obtient de nouveaux monstres. Donc il y a différents œufs, qui se différencient visuellement non seulement par leur couleur, mais aussi par leur motif. Donc de ce que j'ai pu comprendre, chaque motif est lié à une classe de monstres, donc les crocs, les rapides, les herbivores, etc. Et chaque œuf possède après aussi une couleur qui va changer plutôt le monstre à l'intérieur. Donc chaque œuf possède aussi une rareté qui est définie par l'odeur, ne me demandez pas pourquoi, et le poids de l'œuf. Voilà, donc qui vous sont donnés au moment où vous le ramassez. Donc pour ce qui est du combat, c'est un RPG tour par tour assez classique dans lequel on a notre rider mais aussi un monstre avec lequel on combat, donc c'est du 2v2 en général ou du 2v1. Et chaque tour on choisit une action pour notre rider mais pas pour notre monstre du coup. Donc le monstre joue lui-même ses tours, on peut lui forcer quelques actions mais ça va nous coûter des points par exemple dans le combat. Donc le système combat possède quelques particularités, la première c'est qu'on a trois types d'attaques, la force en rouge, la technique en vert et la vitesse en bleu. Donc chacun de ces types est fort et faible face à un autre. Donc, comme on peut le deviner via les couleurs si on a joué à Pokémon dans sa vie, la force qui est rouge bat la technique qui est verte, qui bat la vitesse qui est bleue, qui bat la force qui est rouge. Donc on a un système de Junkenpon.
C'est ça, ouais, pire fait.
Voilà, c'est ça. Donc au-delà de ça, chaque monstre possède des attaques spéciales en fonction de sa race, ainsi qu'une attaque montée qui est utilisable lorsque nous pouvons chevaucher notre monstre au cours du combat. Il faut savoir que chaque monstre a une animation du coup spéciale pour son coup. Donc ça peut être du truc le plus ridicule au monstre qui glisse sur une peau de banane et qui va s'éclater la gueule sur le monstre adverse en lui faisant des dégâts, l'autre qui va faire des saltos en l'air, enfin beaucoup de choses qui sont très drôles. En plus de ça, on peut noter la présence d'un système de fusion de monstres, du coup, qui va permettre d'avoir des meilleurs monstres avec des meilleurs gènes. Oui, les capacités spéciales des monstres sont gérées par les gènes.
Il y a beaucoup de monstres à la.
Mais on a tout le bestiaire de Monster Hunter, donc ça fait énormément de choses. Hein. De ce que j'ai vu, on a même des Rathalos de couleurs différentes, etc., comme les dernières versions. Donc on a vraiment énormément de monstres. On a certainement plus d'une centaine de monstres. J'ai pas eu les chiffres précis, je dois avouer. Donc on a un système de craft qui malheureusement est assez anecdotique de ce que j'ai compris, qui permet d'augmenter l'attaque et la défense de notre perso en changeant les équipements au fur et à mesure et en les upgradant. On peut noter des points de craft intéressants qui résident dans la possibilité d'avoir 4 types d'armes différents comme dans les Monster Hunter classiques, mais là il n'y en a que 4 alors qu'on est habitué à plus 8-9 types d'armes différents. Et donc ils vont se spécialiser, donc on va avoir le corps, le couteau de chasse, la grande épée et le marteau, et qui vont chacun avoir une particularité. Voilà, la grande épée ça va être technique, le marteau la force, l'épée courte la vitesse, et on va avoir le corps de chasse, et ça par contre je sais pas du tout ce qu'il fait pour le coup.
D'accord.
Donc on a aussi une histoire, mais malheureusement j'ai pas vraiment vu beaucoup d'histoires vu que j'ai regardé beaucoup des let's play, donc le début, c'est pour ça que j'en parle que maintenant, qui nous laisse découvrir un mal, une espèce d'esprit maléfique en fait qui va rôder, qui va se transmettre de monstre en monstre mais aussi de plante en plante et peut-être aux hommes, on sait pas vraiment, mais on nous dit de faire attention en tout cas dans l'histoire. Donc pour résumer rapidement un peu le jeu, pour conclure, on a un super petit RPG pour tout âge, honnêtement, hein, c'est pas violent et tout, vous pouvez y aller à tous les âges, sur 3DS, donc portatif, qui lui permet de découvrir ou de redécouvrir un univers avec un bestiaire fort sympathique, sans pour autant avoir besoin de farmer des heures et des heures pour améliorer ses armes et ses armures en boucle et commencer avec des nouveaux monstres, etc. À côté de ça, le jeu étant bien réalisé, on va passer des bons moments avec nos créatures, ainsi qu'avec les différents personnages de la série. Donc je vais pas trop parler des personnages, mais on a pas mal de petits personnages qui ont leur importance dans l'histoire et dans le village. Et donc c'est un petit jeu sympa, qui personnellement me tente bien pour la 3DS, je dois avouer maintenant.
D'accord.
Mais on marquera cependant, encore une fois, un manque de capacité de la 3DS, qui rend pas vraiment hommage au jeu. On a des magnifiques maps, mais c'est pas très beau, c'est de la 3DS, quoi. Qui malheureusement profiterait grandement d'un traitement graphique supérieur, par exemple sur Switch.
Quel gâchis, hein.
Oui, c'est vraiment dommage. Donc pour ce qui est de la note, je dirais un bon 16 sur 20, bien solide sur les appuis, comme on dit. Je conseille pour tous les fans du genre tour par tour, parce qu'il est franchement sympathique, et ça fera un bon petit jeu auquel jouer en attendant Ultra Soleil et Ultra Lune au mois de novembre.
Oui, c'est vrai qu'ils vont arriver dans pas longtemps. Mais
et que j'attends avec impatience.
Voilà.
Malgré le manque de hype.
Exactement, c'est ça. Bon, ça de façon, on aura le droit à un dossier, bien évidemment, sûr. Obligatoire. Et on applaudit notre cher Mi Botan, s'il vous plaît. Oui! N'oubliez pas Monster Hunter qui a eu la note de 16
voilà,
sur 20.
Monster Hunter Stories.
Ok, Monster Hunter Stories. Et donc maintenant, pour finir en beauté, ça sera notre cher ami, donc Tagada, secondé par notre cher ami Lulu, qui vont nous faire un dossier sur un manga que les gens connaissent ou pas, même si c'est quand même un classique, et qui s'appelle comment ?
Black Butler.
Allez, Black Butler, c'est parti pour leur dossier. Vas-y. Alors, Black Butler.
Je pense pas avoir le temps. Donc,
mais si, il y a toujours le temps.
C'est un manga qui est également un animé, qui a été fait par Yana Tobozo. Les premiers tomes sont sortis en 2006. Après, il y en a 24 maintenant. Le dernier, il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a eu un animé. Il y en a eu beaucoup.
Mm-hmm.
T'as acheté le dernier. Il y a trois saisons. Il y a des OAV, il y a de tout. Alors,
il y a même un film live.
Ça, je ne savais pas et j'ai été traumatisée.
Ah. Tu l'as regardé ?
J'aime bien, elle est traumatisée par la série live, mais pas par les parodies yaoi ou
ouais,
hentai.
Ça va.
Alors, j'en lis plein, donc.
J'aime bien, j'ai cru qu'elle allait dire alors, j'en lis pas du tout, ok, c'est bon.
Arrête de me juger.
Alors, vas-y.
Alors, c'est l'histoire de Ciel. Oui, je passe sur l'histoire. C'est un orphelin qui est le chien de garde de la reine, comme on dit. Il doit s'occuper de tout ce qui est crime, tout ça dans. En Angleterre.
Mm-hmm.
Pourquoi j'ai l'impression de faire une connerie ?
Genre, si Colombo il vole quelque chose, c'est lui quoi.
Voilà, c'est ça. C'est un peu l'homme de l'ombre en fait. Celui qui fait les trucs dans l'ombre pour la reine.
Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a 12 ans.
Bon, ça, c'est un détail ça.
Bah oui.
Ouais, enfin, c'est quand même un enfant. À côté. À côté, normalement, il s'occupe de la société fantôme qui s'occupe juste de créer des jeux de société, des bonbons, tout ça.
C'est mm-hmm. une couverture.
Oui.
C'est pas mal des bonbons.
On aime les bonbons. Et il est secondé par Sébastien, qui, entre parenthèses, est un démon. Et avec lequel il a signé un pacte quand ses parents sont morts.
D'accord.
Et après, on va suivre toutes leurs péripéties, qui sont très bien.
Ouais, d'accord. C'est quel genre de démon? Est-ce qu'il est fort? C'est quoi ses particularités?
Il est très sexy. Absolument.
Ok, super.
Ça, c'est une bonne particularité.
Ça, c'est une réponse de femme, ça, tu vois.
Non, il est un démon.
Même Sébastien. Tout le monde aime Sébastien. Même si je préfère Ciel.
Ok.
Je suis pédophile.
Voilà. Okay.
Et t'es dégueulasse.
Tu voulais passer un bonjour à tes parents, c'est ça?
Maman, ne m'écoute pas, s'il te plaît.
Ok. Alors.
Qu'est-ce qu'il a d'autre comme particularité, ouais, Sébastien? Apparaître beau.
Selon les Japonais, c'est un peu le mec parfait.
D'accord.
Ils disent qu'en fait, peu importe la situation,
il sera toujours
il pourra toujours, toujours répondre.
Encore mieux que Sakamoto ou
Même level.
À mon avis, plus. Mais après, Sakamoto, ouais, c'est pas le même délire. Comme on
l'a coupé. Il gère totalement, il perd jamais aucun combat. Il arrive à gagner des combats avec élégance, alors qu'il tue les gens avec des couteaux.
Ah, bah,
et des fourchettes.
Voilà, ouais, faut préciser.
C'est un majordome.
D'accord. Alors, qu'est-ce que toi, t'as aimé justement dans ce dessin animé ou dans ce manga?
Bah, au début, c'est long. Enfin, genre, le premier tome, il est long.
Bah, il met en place l'histoire, quoi.
Oui, mais faut forcément. Mais après, c'est intéressant. Toutes les intrigues, elles sont super intéressantes. Et ça commence sur des petits crimes par-ci par-là, chaque tome.
Il me semble que même l'un des premiers, c'est Jack l'Éventreur, si je me trompe pas. Hein.
Non,
c'est
Jack l'Éventreur, ça part du 2.
Ah, ouais, bah, voilà. Non, mais c'est parmi les premiers, tu vois. Donc ça commence déjà à avoir des histoires intéressantes aussi, tu vois.
Mais après.
Est-ce que ça arrive bien à se renouveler ou pas? Parce que faut dire que le manga, ça fait depuis quand même assez longtemps qu'il est publié. Est-ce que vraiment ils arrivent à se renouveler au niveau de l'histoire?
Bah,
est-ce
oui.
que ça t'intéresse toujours autant?
Ah oui, moi ça m'intéresse toujours autant en fait. Ils arrivent toujours à renouveler des trucs. Genre au début, c'est Jack l'Éventreur. Maintenant, c'est plutôt.
C'est John l'Éventreuse.
Jamais. Des trucs tirés par les cheveux, genre je suis un petit peu bête donc je comprends pas tout, mais là par exemple
pédophile bête qu'est-ce qu'il y a encore
moment, ça parle de la transfusion sanguine qui n'existait pas à l'époque, du coup bah c'est
un peu bizarre
très...
c'est dans le futur.
Oui, c'est très bizarre.
Non, c'est un truc que t'as pas précisé, c'est que ça se passe plutôt 19e siècle, donc on est sur un truc assez Londres à l'ancienne, tout ça,
voilà,
c'est très très ancien.
L'époque des Sherlock Holmes, c'est des Jack l'Éventreur aussi.
Bah, voilà. On est typiquement dans cette période-là. Hein.
Voilà, c'est l'époque victorienne.
Et qu'est-ce que t'as aimé encore dedans?
Bah que.
Sébastien est sexy, mais encore.
Mais encore. Si elle est sexy, mais encore.
On peut s'imaginer des choses.
D'accord.
Mais encore.
Aussi.
Bah que l'intrigue elle est bien, mais il y a un petit problème. C'est que dès le début, t'apprends que Sébastien, il a lié un pacte avec Ciel, et que quand Ciel aura réussi à se venger de la mort de ses parents, et bah Sébastien va manger son âme. Mais après le premier tome, t'en entends plus parler. Genre de temps en temps.
C'est le syndrome détective Conan.
Ouais,
c'est ça.
Faut 70 tomes pour que l'histoire avance.
De temps en temps, t'as Sébastien qui fait je vais manger ton âme si tu n'avances pas, mais au final, il fait jamais rien. Ça fait 24 tomes qu'il est censé s'éteindre.
En fait, même Ciel, il en a plus rien à foutre, quoi. Il a pas peur quand il dit ça, quoi.
Il est un petit peu en mode.
Bah, limite, il va dire ouais, tu radotes, quoi.
Je m'en fous. Mais okay. Sébastien, je sens qu'il va bientôt péter un câble parce que ça fait quelques années qu'il a pas mangé.
Ok, d'accord.
Il a faim quand même, c'est un moment, merde. Le bon steak.
Après, le manga, déjà le premier tome, même les autres tomes, en fait, ils sont assez longs au niveau du texte pour vraiment nous mettre dans l'histoire. Mais bah, du coup, déjà le premier tome, il faut vraiment s'accrocher. Et si par exemple on a le malheur d'oublier, de sauter une phrase, moi par exemple, la première fois que j'ai lu, je n'ai plus rien compris parce que j'avais sauté une phrase.
Si tu sautes la mauvaise phrase, c'est mort.
Sébastien est un démon, c'est clair que si tu zappes ça, t'es en mode boîte.
En plus, c'est comme Death Note en fait. Par exemple, quand on loupe une,
tu vas louper quelque chose de l'intrigue ensuite.
D'accord, votre conseil, c'est faut bien être dans l'histoire. Quoi.
Ouais, mais aussi, il y a vraiment des dessins magnifiques. Donc,
ils se sont beaucoup améliorés. Hein. Au début, c'était pas beau.
Ça va,
il y a pire, franchement. Moi, j'ai que les 4 premiers tomes. Ouais, voilà.
Ça m'a choqué. Genre, j'ai lu
le manga original de One Punch Man, tu vas voir.
Ouais, tu vas voir, tu vas comprendre ce que c'est.
Moi, j'ai lu le tome 24 et hier, je me suis repris le tome 1, ça fait un choc quand même.
Ah bah oui, bah après, en même temps, il y a eu pas mal d'années qui sont passées, quoi. C'est normal qu'il s'améliore.
10 ans.
Mais sincèrement, il y a pire. D'accord, ok. Alors, si tu devais donner une note, donc du coup, au manga, ça serait quoi?
20.
Ok, d'accord.
Objectif.
Non,
21.
Non, mais ouais, il y a des défauts et puis surtout, il y a la note pour l'animé et la note pour le manga.
Alors, donc, pour le manga, ça serait combien? Et pour l'animé, combien?
Pour le manga, 17.
Ok. Pour l'animé, 17. Ok, d'accord, tout ça pour ça.
Non, l'animé, sincèrement, 15. Parce qu'il y a des moments, ça s'éloigne beaucoup trop.
Ok, d'accord.
Il n'est pas forcément respectueux de l'histoire et du coup c'est...
Au début il respecte l'histoire, mais à partir d'un moment ça part dans un délire, il y a des anges, machin. D'accord. La saison 2, ah oui. Genre il y a des personnages qui sont apparus, jamais on va les connaître dans le manga.
D'accord, ok, ouais, je vois le genre.
Après ça peut être complémentaire aussi.
Ouais, ça peut être du coup une autre histoire et intéressant de regarder.
Ça donne des infos, par exemple dans le manga tu connais Sébastien, c'est un démon, mais il n'y en a aucun autre. Alors que dans la saison 2 de l'animé, bah, tu vois un nouveau démon, un nouveau gars qui a pactisé avec un démon.
Mais tu sais que c'est la même scénariste qui a fait. C'est celle qui a fait le manga qui a fait justement le scénario de la saison 2.
Ouais, et je trouve ça dommage d'ailleurs qu'ils l'ont pas, qu'ils l'aient pas fait en manga. Parce que c'est quand même super intéressant.
Ouais, mais en fait, le manga, il met longtemps à sortir aussi.
Ouais, c'est du mensuel.
7 mois entre chaque tome.
Ouais, mais c'est
long.
C'est un mensuel, ouais.
C'est ça.
Non, mais surtout qu'ils sont fins.
Et toi, Lulu, alors, si tu veux lui donner une note au manga.
Au manga, sachant que je l'ai même pas fini, que j'ai fait une pause.
J'ai fait une pause. J'en suis à la quatrième page, quoi. voilà, et j'ai sauté une phrase et j'ai rien compris, quoi.
Non, je vais être au tome 11, mais je donnerai 18.
La réflexion.
Je donnerai
18.
Et pour l'animé, sachant que j'ai arrêté quand j'ai arrêté de comprendre.
au premier épisode.
Minute 5.
Ah, après le opening, laisse tomber.
Alors
pour l'animé, bah, je donnerai 15 aussi.
J'aime bien parce qu'à chaque fois, elle met une pause avant de donner la note.
La réflexion.
Non, mais je
donnerai 15. Ok. Non, pas de soucis, c'est dit, c'est fait. Bon, bah, on les applaudit très fort.
Oui. Merci à tous.
Alors, juste, Takeda, tu voulais dédicacer ce dossier à tes amis, c'est ça ?
Ah bon ?
Notamment,
j'ai oublié.
Un brun avec des lunettes.
Non,
un certain genre.
J'ai des lunettes.
Oui, c'est un pédophile.
Oh ! Madame, je m'intéresse à Ciel qui a 12 ans. Hein.
Non,
mal placé, quoi. Oh. Non, mais arrête. Arrête pas du tout. Bon, maintenant, ce que l'on va faire, c'est les fameuses sorties. Vous savez qu'il voilà, y a quand même quelques mangas qui sortent. Vous avez envie de savoir qu'est-ce qui est sorti, qu'est-ce qui est bien. Et donc, bah, on est là pour ça. Alors, on va commencer tout de suite avec une sortie Glénat, avec un tome qui était très attendu. C'était le 9e de Tokyo Ghoul Re. Donc du coup, un cri résonne sur l'île de Rushima où les victimes s'accumulent, engloutissant le repère d'Aogori sous leur nombre. Le groupe Tsuya se heurte à rancœur d'un étrange duo de jumelles sous le regard d'un médecin manipulateur. La dernière goule de Chiche brûle d'affronter son vieil ennemi. On continue avec l'édition Kana avec Assassination Classroom numéro 18. Nagisa et Karama ont pour mission de s'infiltrer dans la station spatiale... Donc du coup, où il récupère son comble d'informations qui pourront peut-être permettre de sauver Monsieur Kuro. Chez Pika, on a le Seven Deadly Sins, donc du coup numéro 23. Depuis la mort de Meliodas, le démon envahit Britannia. Quelques humains luttent toujours, tandis que d'autres préfèrent pactiser avec l'ennemi pour assurer leur survie. Quant à Elisabeth, elle a repris sa place de serveuse au bord Hat, espérant voir se réveiller son héros endormi, jusqu'au jour où une ancienne connaissance croise nouveau sa route. Et on finit avec « Je voudrais être tué par une lycéenne ». C'est vraiment le titre du manga, volume 2,
sale.
Chez Delcourt Tonkam. L'homme qui a fait le choix de devenir enseignant au lycée pour réaliser son rêve d'être tué par une lycéenne met en place son plan. Et poussé par une ténacité rare, l'homme déploie son ombre inquiétante au-dessus de la jeune fille. Et c'est tout pour les sorties. Wouhou ! Alors, maintenant, ce que je vous propose, c'est de finir avec le fameux jeu de Tokyo Yume. Alors, le jeu de Tokyo Yume, c'est quoi ? On va faire deux équipes, d'accord ? Désolé les filles, vous serez dans deux équipes différentes. Il y aura la gauche et la droite. Et donc, du coup, c'est par exemple, je vais dire, je veux un manga de sport. Et là, chacun à votre tour, vous allez dire un manga de sport jusqu'à ce qu'il y ait une des deux équipes qui ait plus de réponse.
Un manga de sport.
Ok ? Alors,
qui commence ?
Donc, hein ?
Qui commence ?
C'est vous. Et ça va être très drôle. Je voudrais. Alors, soit un manga, on va dire érotique, soit un manga yaoi.
Love story.
Yaoi érotique. Love story, j'accorde.
Bible Black.
Manga papier.
Ah mince, c'est pas papier. C'est chiant ça.
Ouais. C'est chiant ça.
Je ne lis pas assez de hentai pour savoir.
Alors, yaoi.
Attends.
T'es avec eux ?
Non mais je cherche comment.
Comment dire ?
Mais merde, attends, c'est le titre.
10, 9.
Vas-y,
mes
vas-y,
habitudes
vas-y.
Avec mon petit ami.
Ok, d'accord, super, à vous.
Eh, c'est lui que j'ai ramené.
Lulu, je crois qu'il compte sur toi là.
Shioneta.
Ouais,
je connais pas, mais on va dire
ah,
oui.
Ah, si, oui, c'est. Un mais si, c'est même. Non, c'est pas une
mais c'est pas une
c'est la meuf qui se balade avec une culotte sur la tête et tout pour faire la révolution.
Ah, ouais, mais là, je parle de manga papier seulement.
Ah,
parce oui, qu'animé, ça ferait un peu trop.
Il n'y a pas animé.
Ah, parce qu'après, les Amy la cochonne et autres.
Hentai Kamen, c'est pas un manga papier ?
Non.
C'est un comics à la base.
Des Shinchi.
Ok, d'accord, je l'accorde, je connais pas, mais bon. Allez, vas-y. Histoire qu'ils aient au moins un point.
Allez. Ouais, mais du coup, c'est nous qui l'avons pas.
On avait déjà un point.
10.
Ah, c'est terrible, comment
9,
on fait
8.
Attends, on en a vu plein, là, en plus.
6. 5.
C'est pas cent.
Au moins, la prochaine fois, quand vous allez à la Comiquette, vous saurez ce qu'il vous reste à faire.
On prendra des notes.
Innocent. Non, attends.
3.
Comment on dit une rencontre en anglais?
2.
Meeting.
Meeting.
Alors, rendez-vous.
Ouais, date.
Mais tes mangas yaoi là,
mais
dégueulasse
oui,
là.
Mais
donne-nous des titres.
Mais le timer il est pas fini là.
Hein?
Genre c'est un truc avec un parapluie donc c'est Umbrella.
T'as cru que c'était Rihanna là.
Ouais, je peux pas savoir.
Ouais.
Putain,
finalement mais, c'est Kingsman en fait.
Si. Mais non, mais j'ai oublié.
Trop tard,
Umbrella 2, c'est ça, on va dire.
On va dire un truc dans le genre.
Ok, bah j'accorde pas. Victoire pour l'équipe de Lulu. Ils ont fait très fort.
Moi je connais pas le titre, j'ai l'histoire.
Ah oui, parce que toi, parce que madame ne regarde que les images.
Ah ben oui.
On est très bien, voilà, le titre, on s'en fout. Donc, l'heure est venue de se quitter.
Oh.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
Oui.
Donc, du coup, on remercie évidemment tous nos auditeurs. Merci d'avoir été aussi nombreux et d'être restés avec nous malgré des fois où on part un peu en vrille. Enfin bref, vous savez ce que c'est la jeunesse, la fougue. Et on remercie évidemment tous nos partenaires. Et n'oubliez pas, Tokyo un jour.
Tokyo toujours.
Allez, bye bye, ciao.